blanche, par exemple, dont la température de surface se compte en dizaines ou en centaines de milliers de degrés. Et enfin, dans le domaine des rayons gamma. Imaginez un plérôme sans Hélios et sans Sélénée, sans Soleil et sans Lune, sans étoiles, sans planètes. Ils ne sont pas assez puissants pour émettre de tels rayonnements. Imaginez un ciel presque uniformément noir où brillerait pourtant un nouvel objet, un nouvel astre du jour, en lieu et place du Soleil. La nébuleuse du crabe, un objet ténu et inconnu dans notre quotidien, qui pourtant s'imposerait comme nouvel astre le plus brillant de l'univers, irradiant le milieu interstellaire de particules relativistes. La physique des particules, c'est certainement l'une des grandes avancées scientifiques du XXe siècle. Quête de l'infiniment petit, oxymore conceptuel finalement. Que reste-t-il aujourd'hui de l'atomos de Démocrite ? L'infiniment petit, pour le physicien, c'est d'abord une conciliation de deux principes fondamentaux. Deux principes pour faire un monde. D'abord, le principe de jauge. Le physicien des particules est obnubilé par l'unification et par la réduction. Il cherche à subsumer l'ensemble des forces qui structurent l'univers sous un même et unique concept ou principe. Dites-moi ce que sont nos invariances et je vous dirai ce que peuvent être nos interactions. Le principe de jauge a effectivement permis d'unifier l'électricité et le magnétisme, puis la force électromagnétique avec la force nucléaire faible. Pourtant, heureusement sans doute, le monde qui nous entoure n'est pas unifié. Il est au contraire diversifié et foisonnant. Il faut donc un second principe qui vient en quelque sorte contrebalancer le premier. C'est le principe de brisure spontanée de symétrie. Il vient réhabiliter la diversité du réel en dépit de nos tensions ou intentions vers l'unité conceptuelle. Pensez à un stylo à billes posé sur sa pointe. Initialement, il est parfaitement symétrique par rotation autour de son axe. Et quand vous le lâchez, il tombe. Il tombe et il choisit une direction privilégiée. Il a spontanément brisé la symétrie qui le caractérisait. Mais parce que nos lois physiques proviennent de ces mécanismes de brisure de symétrie, il s'ensuit qu'elles-mêmes ont une histoire. Ce qui signifie que la contingence vient en quelque sorte infecter la nécessité de l'intérieur, puisque les règles, les lois qui composent les évolutions possibles du cosmos sont elles-mêmes résultant de ces processus aléatoires. Vous le voyez, les particules élémentaires ne sont plus exactement des petites billes liées par des ressorts, comme on le lit parfois dans les mauvais ouvrages de vulgarisation. Elles sont bien plutôt des représentations irréductibles de groupes de symétrie. C'est vrai, c'est parfois au lourd, très lourd, trop lourd, pris de l'abstraction mathématique que se révèlent certains visages du cosmos. Non pas, je crois, parce que, comme le pensait Galilée, la mathématique serait la langue pure et intrinsèque de la nature, mais plutôt parce qu'elle est une manière, parmi d'autres possibles, de créer un monde, et en l'occurrence, un monde cohérent qui dévoile quelque chose de sa structure intime ou ultime. Alors, particules élémentaires, disais-je, mais particules relativistes. Vous savez, la relativité restreinte, c'est la première grande déconstruction de cette idée ou image d'un espace et d'un temps absolu, intrinsèque, a priori, forme a priori de la sensibilité humaine, transcendantale dans le vocabulaire d'Emmanuel Kant. Au contraire, ils deviennent a posteriori chez Einstein. Et la relativité restreinte est doublement révolutionnaire. D'une part, dans ce qu'elle énonce, dans ce qu'elle enseigne quant à la structure du réel, mais aussi dans ses hypothèses, dans ses prémices, parce qu'elle est la première théorie de jauge de l'histoire, c'est-à-dire la première proposition sur le réel à s'asseoir et à se fonder sur une symétrie. Et en l'occurrence, une symétrie très simple. Invariance des lois par déplacement spatial et temporel. Autrement dit, plus clairement, quand Isaac Newton énonce les principia, il ne les suppose pas valides exclusivement à Cambridge. mais aussi implicitement à Athènes et Alexandrie. Il ne les suppose pas explicitement valides uniquement en l'an de grâce 1687, mais aussi bien sûr la veille et le lendemain. Cette stabilité spatiale et temporelle est finalement définitoire du concept de loi. Que serait une loi dépendant du lieu et du temps ? Et de façon remarquable, à partir de cette simple hypothèse, relativement inévitable, la relativité conduit à trois conséquences fascinantes. D'abord, l'existence d'une vitesse limite, absolue, indépassable, que l'on peut bien assimiler à celle de la lumière, mais qui, plus fondamentalement, est une constante de structure, une propriété intrinsèque de l'espace-temps. C'est, si vous voulez, une sorte de frein à nos velléités exploratoires de l'espace. C'est ce qui fonde notre communauté causale. Cette vitesse indépassable, et je crois que c'est le point nodal, ne résulte pas, quant à son existence, de la forme particulière des lois qui structurent notre monde, mais du simple fait que des lois existent. Ensuite, la relativité restreinte montre l'existence de liens et de malléabilité au sein même de l'espace et du temps. Je peux changer de l'espace en temps et du temps en espace. Autrement dit, quand je me mets en mouvement par rapport à vous, ma montre se désynchronise par rapport à la vôtre. Le temps ne s'écoule plus à la même vitesse. Les voyages dans le futur, nous apprend la physique, elle l'a prouvé à plus d'une occasion, sont bien évidemment possibles. Chacun d'entre nous, si nous possédions la technologie adaptée, pourrait devenir plus vieux que ses propres parents, à condition qu'il soit encore en vie et qu'il soit soumis à une vitesse suffisante pendant un temps suffisant. Autrement dit encore, la lance d'Achille pourrait devenir plus petite que le bouclier d'Hector, et ce, sans intervention aucune de la déesse Athéna, mais comme un simple et inévitable effet de contraction géométrique. Et enfin, troisièmement, la relativité restreinte montre, E égale mc carré, qu'il existe un pont entre des grandeurs de nature différentes. E, c'est l'énergie. Elle est contingente. Je suis susceptible de demeurer moi-même tout en acquérant ou perdant de l'énergie. Mais M, c'est la masse. Elle est nécessaire. Elle est liée à l'être. Je pèse donc je suis, pourrait dire le physicien dans une version appauvrie du cogito, parce qu'effectivement, elle est liée à la définition des êtres fondamentaux. Ce pont entre l'un et l'autre, c'est donc l'ouverture d'une possibilité de transmutation, si vous voulez, d'une propriété en existence, d'un accidentel en essentiel, d'un acquis en inné. Et c'est exactement ce qui se passe dans un accélérateur de particules. Vous voyez, c'est un peu comme si on énonçait que l'on pouvait dorénavant transformer la qualité de timbre d'un magnifique piano Bösendorfer en existence réelle et palpable d'un nouveau piano Steinway, mais sans détruire le premier. Et c'est ce qu'on fait. Dans une collision de particules, on transforme le mouvement des particules incidentes en existence tangible de nouvelles particules, éventuellement sans détruire les premiers. On a transformé une caractéristique, une propriété, en être. Donc il y a une transformation, un transformisme ontologique qui est ouvert par l'égalité E égale mc carré. Alors ces particules relativistes, évidemment, elles sont signifiantes en tant que constituant ou qu'habitant fondamental du réel. Mais elles sont aussi signifiantes en tant que sonde pour découvrir de nouveaux visages de cosmos, au-delà des grains de lumière que nous évoquions tout à l'heure, fussent-ils de très haute ou de très basse énergie. Je pense par exemple aux rayons cosmiques, ces protons, noyaux d'hélium, de carbone, de béryllium, de fer, qui sillonnent l'espace interstellaire en tous sens avec une énergie considérable et qui nous indiquent quelle est la dynamique de notre propre galaxie. Qui nous permettent également de faire face à cette question lancinante d'astrophysique contemporaine, où est donc passée l'antimatière ? On sait que les lois de la physique sont presque exactement symétriques entre matière et antimatière. Et pourtant, la matière semble avoir gagné le combat contre sa consœur ennemie. L'univers, semble-t-il, n'est composé presque que de matière. Quand Neil Armstrong a marché sur la Lune, il ne s'est pas annihilé. La Lune est donc bien faite de matière et non pas d'antimatière. À moins que loin d'ici, très loin d'ici, dans un cosmos resymétrisé entre zones de matière et zones d'antimatière, se trouvent des antigalaxies avec des anti-étoiles et des anti-planètes où l'on donne peut-être des anti-banquets, des anti-maisons des banquets, invitant des anti-conférenciers auxquels il faudrait donc se garder de serrer la main si l'on veut éviter l'annihilation. Mais au-delà des rayonnements électromagnétiques, au-delà des rayons cosmiques, je pense aussi, comme sonde des nouveaux visages de cosmos, aux neutrinos. Les neutrinos sont des particules fantômes, sans masse ou presque, sans charge, sans couleur. Ils ne disposent que d'une seule, des quatre interactions fondamentales de la physique pour interagir avec le monde qui les entoure. Autrement dit, ils ont cette caractéristique fascinante de voir un monde transparent. Et donc de traverser les espaces interstellaires, intergalactiques et les sources elles-mêmes sans être altérés. Ils gardent l'empreinte de ce qui les a produits. Pensez au Soleil. Quand nos yeux le scrutent, nous ne voyons que sa surface. Nous ne voyons qu'une pelure d'étoiles. Nous ne voyons qu'une peau d'astre. Alors je sais bien que dans une posture d'ailleurs très stoïcienne, Deleuze aimait à citer Paul Valéry qui déclarait que le plus profond c'est la peau. Mais derrière cette peau il y a un corps, fut-il sans organes à la manière d'Artaud, il y a un corps nucléaire qui chaque seconde brûle quelques 500 millions de tonnes d'hydrogène en hélium. Et ce corps, pour le voir, les neutrinos sont une sonde irremplaçable parce qu'ils donnent accès au cœur des choses sans être altérés par les conditions de propagation. Et enfin, je pense aux ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles sont des tressaillements fugaces de la métrique de l'espace-temps. Elles nous permettront peut-être de voir enfin la géométrie des choses, de réaliser peut-être un peu du projet platonicien. Elles sont prédites par la théorie de la relativité générale, qui est sans doute la plus belle, mais aussi la plus étrange et la plus subversive proposition scientifique sur le monde, sans doute jamais esquissée. La relativité générale montre que l'espace se distord et se distend eu égard à la présence des corps qui s'y trouvent. Un peu comme si, dans notre étrange partie d'échecs cosmologiques, la morphologie des cases devenait une conséquence de la position des pièces. Un peu comme si dans notre pièce de théâtre, le décor évoluait au gré de la position des acteurs. Un peu comme si, ce que d'ailleurs les poètes et les linguistes savent depuis toujours, la convergence entre le fond et la forme est si fondamentale que la distinction même entre l'un et l'autre devrait s'évanouir sous l'analyse. Ce que nous montre vraiment la relativité générale, c'est que l'espace n'est plus le lieu dans lequel se déploient les phénomènes. Au contraire, l'espace est lui-même un phénomène. L'espace est un phénomène comme les autres, régi par ses équations d'évolution. Autrement dit, l'espace est dynamique. Pour le dire de façon un peu plus provocatrice, mais non moins exacte, ce que nous montre Einstein, c'est que l'espace n'existe pas. Nous habitons sur ou dans le champ gravitationnel. Le champ de gravité en lieu et place de l'espace. C'est une ontologie purement relativiste et relationnelle. Plus aucune structure figée sous-jacente, plus aucune métastructure. Le monde, comme une collection de champs, en interaction les uns avec les autres et en interaction avec le champ de gravité. Alors vous le voyez, tout au contraire d'un monde désenchanté ou désincarné, comme on le dit parfois, je crois que l'astrophysique contemporaine présente plutôt un cosmos diapré, bigarré et foisonnant, peut-être ce qu'Hésiode appellerait une chimère. Il est vrai d'ailleurs que notre cosmologie est chimérique à plus d'un titre. D'abord, parce que nous faisons partie du système que nous entendons décrire, l'univers. Ce qui est un peu gênant. Vous savez, la physique aime à se distancier autant que faire se peut de l'objet d'étude, ce qui est en l'occurrence inenvisageable. Ensuite, et plus gravement, parce que les conditions initiales y jouent un rôle très spécifique. Remarquez un instant avec moi que la physique ne prédit jamais rien, finalement. Quand bien même vous connaîtriez parfaitement les lois de la pesanteur et du frottement sur l'air, vous ne pouvez pas savoir où ce petit objet va atterrir si je ne vous dis pas la manière dont je l'ai jeté. Et la manière dont je l'ai jeté, ce sont les conditions initiales. Elles sont antérieures et extérieures à l'expérience considérée. Oui, mais il n'y a ni antériorité, ni extériorité au système univers. Qui et comment fixe les conditions initiales? Il faut en quelque sorte que le modèle génère lui-même ses propres conditions initiales. Enfin, l'expérience est irreproductible. Le protocole même de la science expérimentale consiste à tenter d'inférer des lois à partir de l'observation de régularité lors de la réitération d'expériences dans des conditions similaires. Oui, mais l'univers n'est né qu'une fois. On ne peut pas reproduire l'expérience création de l'univers. Comment distinguer donc le nécessaire du contingent dans le monde qui nous entoure? Qu'est-ce qui aurait pu être autre et qu'est-ce qui se doit d'être ainsi compte tenu des constantes fondamentales qui décrivent la dynamique du cosmos? Sans même compter que les énergies en jeu dans l'univers primordial sont beaucoup plus grandes que celles que l'on peut tester sur Terre, et que c'est l'instant final qui est connu, et non pas l'instant initial, et la science nous a appris que remonter le cours du temps est toujours un enjeu ou une activité à risque. Et le petit miracle de la cosmologie, c'est que, en dépit, ou peut-être grâce, à ses spécificités, à ses difficultés et à ses paradoxes, la cosmologie est effectivement devenue une science, et même une science de précision. Aujourd'hui, elle se fonde essentiellement sur trois piliers. D'abord, le fond diffus cosmologique que nous évoquions tout à l'heure et qui a récemment été mesuré avec une précision remarquable par le satellite européen Planck. Le fond diffus cosmologique, c'est la première lumière de l'univers. On peut déjà s'émouvoir de son existence, qui est une corroboration remarquable du modèle du Big Bang. Mais on peut faire mieux. On peut aujourd'hui scruter d'infimes fluctuations dans sa température et en déduire, avec une précision sidérante, l'ensemble des paramètres qui dictent l'évolution de l'univers. Son âge, sa masse, sa dynamique, sa vitesse, son spectre de puissance. Autrement dit, tout ce qui régit notre communauté cosmologique au sens le plus large. Et je ne vous cache pas combien je serais heureux que cette communauté, nous puissions enfin l'entendre en un sens qui dépasse d'ailleurs le seul sens humain. Je ne pense pas aux extraterrestres en l'occurrence, hein, mais aux animaux, que vous l'écriviez AUX ou OTS comme Derrida, à ceux dont on a réifié l'existence jusqu'à en oublier le statut d'être. Le deuxième pilier de notre cosmologie, c'est la nucléosynthèse primordiale. Vous savez, la physique nucléaire est une vieille et vénérable science. Elle sait calculer ce que devraient être les abondances des différents éléments chimiques dans un modèle de type Big Bang. Et là encore, l'adéquation entre les observations et les prédictions est stupéfiante. Et enfin, l'observation de Hubble. Chaque corps céleste, à grande échelle, s'éloigne de chaque autre, en adéquation parfaite avec l'image d'un univers en train de enfler depuis cet instant primitif. Bien évidemment, ce que la relativité générale et elle seule nous permet de comprendre, c'est que l'expansion de l'univers n'est pas un mouvement des corps dans l'espace. Les galaxies ne se déplacent pas ou pratiquement pas. L'expansion de l'univers est une dynamique, une expansion de l'espace lui-même. L'espace, souvenez-vous, en tant que système dynamique. L'espace réintégré à l'ontologie des choses. Voilà donc ce que nous montre la grande théorie d'Einstein, et voilà donc ce que sont les piliers de notre cosmologie. Michel Schneider écrivait du pianiste Glenn Gould qu'il faisait partie des êtres rares, morts souvent, artistes toujours, qui, comme le pensait Baudelaire de Wagner, aux mauvaises heures consolent d'être là. Le bac de Gould, poursuivait-il, a cette énigmatique évidence des choses qui n'attendent rien de nous et ne nous supposent ni désir, ni mémoire. La musique est alors non ce qu'on entend, mais ce qui nous entend. Bien sûr, il pensait aux variations Goldberg, cette autre œuvre-monde, ou avant de réentendre l'ouverture initiale dans l'aria da capo, légèrement épurée, il aura fallu parcourir toutes les variations possibles sur ce même thème, comme autant de modes pensables de l'esprit humain, jusqu'aux apories, jusqu'aux paradoxes, jusqu'aux non-lieux au-delà desquels il n'y a plus de sens. Et précisément, de tels paradoxes, notre cosmologie n'en manque pas. Je pense d'abord au problème de la causalité. Comment comprendre que la température de l'univers soit la même partout, même en des points qui n'ont jamais été en contact causal, autrement dit même en des points qui n'ont jamais pu échanger la moindre information, même en des points qui stricto sensu ne peuvent pas faire partie de la même communauté. On comprend bien que dans une marmite, fût-elle cosmologique, une soupe, fût-elle primordiale, se trouve à une température uniforme à cause des processus d'échange au sein de celle-ci. Mais comment comprendre que 40 000 marmites, confiées à 40 000 personnes, n'ayant pas la possibilité d'échanger d'informations entre elles sur l'intensité des feux auxquels elles seront soumises, se trouvent miraculeusement à la même température? Il faut infléchir le modèle cosmologique et supposer que dans ses premiers instants, Cosmos a subi une augmentation considérable de sa taille, ce qu'on nomme une inflation, de manière à réintégrer toutes ces zones qui paraissaient artificiellement si distantes et distinctes les unes des autres. Mais il y a pire. Je pense au trou noir. Vous qui entrez ici perdez toute espérance, écrivait Dante dans sa comédie pour décrire les enfers. Et c'est peut-être un peu ce que sont les trous noirs, des enfers, parce qu'il est effectivement impossible d'y entrer en conservant l'espoir de s'en extraire. Lorsque l'horizon est franchi, l'horizon, cette membrane mathématique, dépourvue de toute forme de matérialité, lorsque donc l'horizon est franchi, c'est en quelque sorte le temps qui se change en espace et l'espace qui se change en temps. La chute sur la singularité centrale est inévitable. Et cette singularité marque moins un lieu géographiquement déterminé qu'une sorte d'achèvement du temps lui-même. Un corps, en chute libre sur un trou noir, serait mesuré par l'observateur local, proche de celui-ci, comme ayant la plus grande vitesse possible, celle de la lumière. Mais le même corps, étudié par l'observateur global, éloigné du trou noir, serait vu comme se mouvant à la plus petite vitesse possible, strictement donc zéro. Immobilité parfaite et absolue. Vision apparemment antagoniste et pourtant parfaitement cohérente d'un même monde dans une acception relativiste. Les trous noirs sont des astres paroxystiques qui poussent véritablement la relativité dans ses retranchements sans en souligner aucune incohérence. Et pourtant, les trous noirs posent question. Comment comprendre, par exemple, qu'ils sont simultanément les objets les plus simples de l'univers, entièrement décrits par deux paramètres, plus simples qu'une particule élémentaire, mais aussi les objets les plus complexes parce que contenant ou cachant la plus grande quantité d'informations? Où celle-ci est-elle dissimulée? Mais il y a pire. On peut penser, on doit penser, à la matière noire. On sait aujourd'hui, de façon à peu près certaine, que l'essentiel de la masse de l'univers est invisible. Ce qui est déjà quelque peu dérangeant. Mais on sait aussi que cette matière noire ne peut pas même être constituée des particules élémentaires identifiées par notre physique de l'infiniment petit. C'est donc un double paradoxe. Un paradoxe de cosmologie, parce que l'essentiel de la masse universelle est inconnu, mais un paradoxe de physique des hautes énergies, c'est-à-dire des petites distances, parce qu'elle pointe les incomplétudes, si ce n'est les incohérences, si ce ne sont les incohérences, du modèle standard de la physique des particules élémentaires. Rappelez-vous la démarche d'unification qui avait fonctionné si bien entre électricité et magnétisme, puis électromagnétisme et force nucléaire faible. Il devint rapidement évident qu'elle devait être poursuivie pour intégrer la force nucléaire forte qui manquait encore à l'appel. Le groupe mathématique qui permet le plus simplement possible d'opérer cette unification obéit au doux nom de SU5. SU5 fait partie des théories qui ne peuvent pas être fausses, trop élégantes, trop prédictives, trop prescriptives trop inévitable. SU5 fut néanmoins mise à l'épreuve de l'expérience pour le panache et la beauté du geste, et comme vous l'imaginez, SU5 fut infirmée. La nature, naturus, au féminin natura, du verbe latin nascor, sa racine, ce qui est en train de naître, le processus même de naissance. La nature, c'est l'éternelle nouvelle naissante, c'est-à-dire l'étonnante par définition. Peut-être plus comme un délice qu'un supplice de Tantal, il semble manifestement que la théorie ultime se dérobe dès lors qu'on la croit à portée de main. Mais il y a pire. Je pense à l'énergie noire. On sait maintenant depuis un siècle que l'univers est en expansion. Ce n'est plus un paradoxe, la relativité générale nous permet de comprendre cette dynamique de l'espace. Mais on sait depuis un peu plus de 10 ans que cette expansion est accélérée. Voilà qui est incompréhensible. Parce que la seule force à grande échelle dans l'univers, c'est la gravitation. Et la gravitation est attractive. Elle ne peut donc agir que comme un freinage. Comment l'univers peut-il donc accélérer? Sans doute, faut-il revoir les fondements mêmes de notre physique des particules. Sans doute, faut-il repenser le microcosme pour en sonder les conséquences sur le macrocosme. Et si les particules élémentaires n'étaient pas des points, comme on le croit généralement, mais plutôt des structures filiformes, des petits élastiques, ce que la tradition retiendra comme des cordes. La théorie des cordes, c'est d'abord un grand tour de dextérité mathématique, permettant de s'affranchir d'une pathologie récurrente des théories de champ qu'on nomme anomalie. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire au niveau conceptuel, la théorie des cordes, c'est une théorie quantique, par construction. C'est une théorie gravitationnelle, parce qu'elle contient ce que les physiciens nomment un boson sans masse de spin 2, plus clairement, un graviton. Mais surtout, c'est une théorie d'unification. Parce qu'à l'instar d'une corde de violon, qui suivant la position des doigts sur le manche peut générer toutes les notes de la gamme chromatique, les cordes élémentaires suivant leur mode de vibration peuvent générer toutes les particules élémentaires jusqu'à aujourd'hui identifiées. La théorie des cordes s'est déployée suivant 3 révolutions. D'abord, la découverte, toute théorique, de la supersymétrie, autrement dit d'un nouveau pont, sans précédent, entre le monde des forces et le monde des corps, entre le monde des interactions et le monde des particules, qui était jusqu'alors pensé comme mathématiquement disjoint. Ensuite, la découverte des dualités, autrement dit de relations ou d'équivalences entre les très grandes et les très petites distances, entre les très fortes et les très faibles intensités. Et, pour ce qui m'intéresse maintenant, 3e révolution, la découverte du paysage. Vous connaissez cette devinette qu'on pose parfois aux enfants? Comment réaliser 4 triangles équilatéraux avec 6 allumettes? Alors, ils ne trouvent généralement pas la réponse parce qu'il n'y a pas de réponse dans le plan. Mais il y a une réponse dans l'espace. C'est le tétraèdre, la pyramide. Autrement dit, pour solutionner l'énigme, il faut inventer la 3e dimension. Et c'est un peu ce qui est à l'œuvre en théorie des cordes, où pour stabiliser l'édifice, il est nécessaire de supposer l'existence de dimensions supplémentaires. Mais de dimensions cachées, enroulées, compactifiées, dit-on en physique, à très petite échelle. Or, les libertés associées à ces schèmes de compactification sont si immenses qu'il s'ensuit un quasi-continuum, quasi-infini, de lois physiques possibles différentes. Voilà la première image du multivers. L'inflation que nous évoquions tout à l'heure, augmentation considérable de la taille de l'univers dans ses premiers instants, crée, semble-t-il, non pas un univers, mais une infinité d'univers décorrélés les uns des autres. La théorie des cordes, très spéculative, si elle est correcte, les structures ou les amplis avec des lois physiques différentes. Voilà l'océan de diversité. Ailleurs, des mondes sans lumière, des mondes sans matière, des mondes à 7, 8, 9 ou 10 dimensions, des mondes où tout ou presque devient possible bien au-delà de ce qui nous est même imaginable. La question, n'en déplaise à Leibniz ou même à Heidegger, n'est peut-être plus « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» mais « pourquoi une telle diversité et non pas une morne uniformité ?» Finalement, c'est d'une nouvelle blessure narcissique dont il est ici question. Après Copernic, Darwin et Freud, c'est notre univers lui-même qui se trouve déchu de son piédestal et réinterprété comme un îlot dérisoire et contingent dans ce vaste plurivers. Aucun retour ici, contrairement à ce que croient certains mauvais analystes, à mon sens, des vieux démons de l'anthropocentrisme pré-copernicien, tout au contraire, puisqu'après avoir été géocentré, héliocentré, galactocentré et cosmocentré, notre représentation de l'univers semble devenir strictement acentrique. Pourquoi les lois de la physique sont-elles si extraordinairement bien adaptées à l'existence de structures complexes et en particulier de structures vivantes? Peut-être, première possibilité, parce que dans le coup de dé initial, nous avons joui d'une incroyable chance, parce que dans cet espace infini de lois possibles, la nature a sélectionné ce sous-espace de taille absolument ridicule, permettant effectivement l'existence du monde foisonnant que nous observons. Peut-être, seconde possibilité, parce qu'un dessinateur intelligent, Dieu pour ne pas le nommer, a orienté l'évolution cosmologique vers l'existence de l'humanité, ce qui est une solution à la fois théologique, bien sûr, téléologique, puisque finalisée, et anthropocentrique, puisque bien évidemment, nous nous plaçons comme fin ultime ou fin dernière de cette évolution. Ou peut-être, troisième solution, celle du multivers, parce que les dés ont été jetés un grand nombre de fois. Si vous jouez une fois au loto, vous n'avez pratiquement aucune chance de gagner. Mais si vous jouez une infinité de fois, vous êtes sûr de gagner. S'il existe donc une infinité d'univers, avec des lois physiques différentes, l'existence d'univers compatibles avec les structures complexes au rang desquelles nous nous rangeons est non seulement plausible, mais elle est même inévitable. Alors la proposition est vertigineuse, mais est-elle encore scientifique? Satisfait-elle au sacro-saint critère de falsifiabilité de Karl Popper? Autrement dit, peut-on la mettre en défaut? Peut-on montrer qu'elle est fausse? Je crois que c'est le cas. Je crois que la posture est encore scientifique pour une raison simple. Les univers multiples ou multivers ne sont pas, à proprement parler, une théorie. Ils sont une conséquence de théories. Théories qui sont élaborées pour répondre à des questions très précises de physique des particules ou de gravitation relativiste. Théories qui peuvent être mises à l'épreuve de l'expérience, hic et nunc, ici et maintenant. Et si ces théories venaient à être infirmées par des expériences locales, toutes leurs conséquences, y compris ce lot d'univers multiples, s'évaporeraient naturellement avec elles. Si au contraire, et nous en sommes loin, ces théories venaient à être suffisamment corroborées pour devenir les paradigmes dominants, je crois qu'il y aurait quelque chose de l'obstination, pour ne pas dire de l'obscurantisme, à leur dénier la conséquence univers multiple, alors même que celle-ci apparaît naturellement et permet de résoudre un certain nombre d'apories de physique théorique. Mais quand bien même ce ne serait pas le cas, quand bien même la proposition ne satisferait pas aux critères popériens, faudrait-il nécessairement s'en émouvoir? Peut-être pas. D'abord parce que je crois, ça n'engage que moi, que l'épistémologie popérienne n'est probablement pas la plus subtile qui soit. Ce n'est en tout état de cause pas la seule, coincée entre celle de Bachelard, de Carnap, de Merton, de Latour, de Bloor, de Collins, de Bourdieu, de beaucoup d'autres. Elle n'est évidemment pas la seule manière possible de tenter de définir la praxis scientifique. Et je crois que un critère, aussi subtil soit-il, a toujours comme enjeu d'ériger une ligne de démarcation. Et s'il y a une ligne, il y a deux côtés. Et s'il y a deux côtés, il y a toujours, qu'on le veuille ou non, le bon et le mauvais. Je crois que ériger des frontières intéresse généralement ceux qui veulent en exclure les indésirables, et ce n'est pas, en ce qui me concerne, la démarche que je recommanderais. Mais là encore, quand bien même ce serait le cas, c'est-à-dire le critère serait correct et la proposition y échapperait, je crois qu'il faudrait peut-être le considérer avec une certaine bienveillance. Parce que précisément, la science est une pensée dynamique. Et tous les champs disciplinaires se sont auto-transformés de l'intérieur. Finalement, ni le quatuor à cordes en fa dièse mineur numéro 2 d'Arnold Schoenberg, ni le carré blanc de Malevich, ni l'homme qui marche de Rodin n'auraient été considérés comme de l'art par un esthéticien de la Renaissance. Enfin, esthétique d'ailleurs qui stricto sensu n'existait pas à la Renaissance, en tant que discipline philosophique j'entends. Autrement dit, si aujourd'hui les praticiens de la physique venaient à ressentir le désir de redéfinir les linéaments de leur propre champ disciplinaire, je crois qu'il y aurait peut-être plus de danger à le leur interdire a priori qu'à tenter de sonder les conséquences, quelles qu'elles soient, mais de toute façon, l'exploration de nouveaux mondes a toujours été dangereuse de cette nouvelle posture. Étonnamment d'ailleurs, les univers multiples n'apparaissent pas que dans ce cadre. D'autres propositions, elles aussi spéculatives, les produisent ou proposent. Je pense par exemple à la gravitation quantique à boucle, qui est la grande concurrente de la théorie des cordes. Elle tente, dans une approche disons très leibnizienne, d'unifier les grands principes de la relativité générale d'une part, d'Einstein. Il n'y a plus aucune structure figée, il n'y a plus aucune métastructure, il n'y a que des objets en interaction. Avec, d'autre part, les grandes leçons de la physique de Bohr, de Heisenberg, de Schrödinger, de Pauli, de De Broglie, de Dirac, de la physique quantique. Physique quantique qui nous apprend finalement trois choses. D'abord, qu'à une certaine échelle, tout devient discret, discontinu, comme si le travail d'ourdissage du réel se révélait. Ensuite, qui nous montre que les particules élémentaires sont comme douées d'ubiquité, c'est-à-dire peuvent et même doivent se trouver simultanément en plusieurs lieux. Et enfin, qui nous montre qu'il faut, en certaines circonstances, renoncer au reposant déterminisme de la physique classique au profit d'une vision stochastique ou aléatoire. Étonnamment, quand on conjoint ces grands principes, au sein de la gravité à boucle émerge une structure granulaire de l'espace-temps, une évolution probabiliste de l'espace et du temps lui-même. Et quand on l'applique au système cardinal qu'est l'univers lui-même, c'est le Big Bang qui se trouve lavé, lissé, régularisé par la théorie quantique. Le Big Bang disparaît, se trouve remplacé par un grand rebond, autrement dit un autre univers en amont d'une autre, qui se serait contracté et aurait in fine donné naissance au monde en expansion que nous connaissons aujourd'hui. Vous le voyez, le multivers ici n'est plus spatial, comme avec la théorie des cordes et l'inflation, mais il est temporel, à l'instar d'ailleurs d'un certain nombre de grandes cosmogonies anciennes. Alors je pense que pour tenter de sonder, de comprendre ou de tisser à partir de ces multivers physiques, il peut être opportun de recourir à celui que j'identifierais comme le plus authentique philosophe de la diversité. Et en l'occurrence, et quelle que soit ma proximité pour cette mouvance, je ne pense pas à un philosophe post-structuraliste français, mais plutôt à un philosophe analytique, américain, du XXe siècle donc, professeur à Harvard, autrement dit un homme sérieux, je plaisante, hein. Je pense à Nelson Goodman, enfin il est vraiment sérieux, mais pas pour cette raison, je pense à Nelson Goodman. Goodman, c'est celui qui considère l'art et la science comme autant de manières irréductibles les unes aux autres de faire des mondes. Autrement dit, il s'agit de s'intéresser à notre capacité quasi démiurgique de création de systèmes symboliques. Il ne s'agit plus de se demander ce qu'est une chose, mais la manière dont elle fonctionne. Il s'agit de détourner l'attention vers les symptômes, que ce soit de l'esthétique ou du scientifique, peu importe. C'est au nom de ce refus du réductionnisme qu'il rappelle, ce qui est d'ailleurs évident, qu'on ne réduira pas le monde de Canaletto à celui de Van Gogh, ni celui de la physique théorique à James Joyce. Bien que vous le sachiez, le terme « quark » est lui-même emprunté au génial Finnegan's Wake de Joyce. Et c'est au nom de cet anti-réductionnisme qu'il est suivi et précédé par d'autres philosophes analytiques américains, je pense à Dewey, Davidson, Sellars, Putnam, Rorty, et en des sens bien sûr très différents, mais en l'occurrence convergents, par des philosophes continentaux, par Deleuze, Derrida, Nancy, Foucault, Lyotard, beaucoup d'autres. Et je crois que c'est enfin au nom de ce refus du réductionnisme qu'il est contraint à proposer ce qu'il nomme, qu'il est conduit à proposer ce qu'il nomme un relativisme radical sous contrainte de rigueur. Mais un relativisme, et c'est vraiment le point nodal, qui n'aurait rien ni d'un nihilisme épistémique, ni d'un laxisme axiologique. Parce que tout au contraire, faire un monde est une activité à risque. Parce que faire un monde engage raison et responsabilité. Parce que la catastrophe est toujours possible. Parce que ce monde est toujours dans l'incoatif de sa propre déconstruction. Parce que, nous en sommes tous les témoins, l'histoire regorge de mondes immondes. Et je crois que le constructivisme goodmanien pourrait permettre enfin à la physique de se penser comme une élaboration, ce qu'elle a toujours peiné à faire, de se distancier un peu du vieux fantasme, d'un en-soi du réel, par elle révélé. Et je crois que lorsqu'elle se pensera comme une construction, la physique enfin pourra être déconstruite, j'entends bien sûr au sens d'Héridien, c'est-à-dire non pas comme une destruction naturellement, mais comme une attention exacerbée aux non-dits, aux implicites, aux sous-jacents, aux détails, aux hypothèses passées sous silence, aux pierres d'achoppement et aux points de friction, oubliés par la tradition. Récemment, Hélène Cixous a attiré mon attention sur un beau livre de Nicholas Royle qui se nomme « The Constructions, a User's Guide ». Et les titres des chapitres étaient éloquents. De mémoire, « Deconstruction and Poetry »,« Deconstruction and Postcolonial Studies »,« Deconstruction and Feminism », »,« Deconstruction and Literature », Deconstruction and Poetry, et ainsi de suite. Tout, sauf Deconstruction and Physics. Et je crois que la raison à cela est double. D'une part, probablement en partie sociologique, parce que nous sommes encore, toujours, hélas, dans les contre-coups de la sombre affaire Sokal, de cette attaque ratée, à mon sens, mais frontale, contre une certaine philosophie dite postmoderne qui aurait importé à tort des concepts scientifiques dans son propre champ d'étude, ce qui, quoi qu'ils en disent, a, me semble-t-il, conduit certains philosophes à se montrer excessivement prudents quant à la science, comme s'il fallait, hélas, laisser ces concepts dans leur tour d'ivoire. Mais aussi, et plus fondamentalement, parce que précisément, la visée constructiviste préliminaire manque à l'avènement de cette déconstruction. Je crois qu'il est finalement question de cette communauté, fut-elle désavouée, comme l'appelle mon ami Jean-Luc Nancy, en tant qu'insistance du philosophique, du scientifique, du poétique, du politique contre le mythique, en ceci qu'il s'agit de déconstruire les mythes de l'un et de l'ordre. Les mythes de l'un et de l'ordre en ceci qu'ils se nourrissent ou s'innervent d'une phobie récurrente du chaos et du multiple qui a véritablement vertébré un large pan de notre histoire métaphysique. Ce que vous pouvez voir de façon archétypale dans l'articulation de Leibniz et de Kant, disons du divin et de l'humain, ou de l'ordre de raison divine, ou de l'ordre humaniste, mais qu'on voit déjà chez les présocratiques, qu'on voit déjà même chez Héraclite, que l'on voit bien sûr chez Platon, au cœur du Timée, avec cette chora qui vient infecter la dialectique de l'intérieur, qu'on voit jusqu'à chez ceux qui ont tenté de penser hors de l'ordre. Je pense à Heidegger, je pense même à Deleuze et Guattari avec leur chaosmos et chaosmos. Il ne s'agit plus de penser autrement, mais de penser là où la pensée n'avait pas encore cours. Bien, l'heure tourne, nous ouvrions cette petite balade en hommage à Hésiode, alors sans doute faut-il la refermer avec l'autre magicien de l'hexamètre, Homère. L'hexamètre, le rythme du dactyle, la saccade des phalanges, la valeur magique de la métonymie orphique, lorsque la parole du poète se confond avec la musique elle-même, la musique qui, comme le disait Weinberg, de la physique, est ce qui porte le discours humain au-delà du niveau de la farce et lui confère parfois un peu de la dignité de la tragédie. Alors je crois que Homère décrit un homme en dérédiction, aux prises avec son impuissance et sa finitude, mais qui, quand le corps d'Achille se confond avec la lumière du soleil, peut encore créer des mondes et défier les dieux. Merci.